Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, l'ennui est une bénédiction. Trois femmes, trois générations, trois avortements. Et acteur de changement, la sociologue qui transforme la police. Bonne écoute.
L'ennui est une bénédiction. Un texte de Chantal Guy paru le 21 mai 2023 dans la presse. Un de mes bons amis qui a déjà été mon colocataire a retrouvé un jour des vidéocassettes datant des années 1990, dont l'une est carrément une capsule temporelle. Il avait testé sa nouvelle caméra en nous filmant, amis et colocs, pendant toute une soirée, qui devait être un petit lundi à l'appartement, car nous ne sommes manifestement pas sur le party. Ce fut un choc de voir ça, parce que nous semblons vivre dans un autre espace-temps. Nous avons regardé deux bonnes heures pour constater que nous ne faisions que glander ce soir-là, d'une façon qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Nous jasons en sautant du coq à l'âne, nous nous taisons, nous feuilletons des magazines. Nous scrutons le plafond en gang. Je vous jure, et nous n'avions même pas pris de drogue. On dirait que nous vivons au ralenti, à moins que le présent ne soit devenu trop rapide pour comprendre ce qui se passe dans ces vidéos. Comme les jeunes d'aujourd'hui, nous regardions peu la télé, parce que notre vie se passait dehors, à l'université, au boulot, dans les discothèques et les fêtes innombrables. Nous étions dans cette période de la vie où la pire chose qui pouvait nous arriver était de regarder la télé un vendredi soir habillé en mou. Ma culture télévisuelle des années 1990 est faible, notamment pour ça, et ceux qui craignent la mort de ce médium semblent oublier qu'on n'est pas censé y consacrer autant de temps quand on est à l'âge des premières amours et du développement de son réseau social, avec de vrais êtres humains, dois-je préciser. Bref, nous avions fini par oublier la caméra qui filmait, et c'est pourquoi on nous voit tant au naturel. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, aucun souci que ces images deviennent publiques et nul besoin de se montrer intéressant pour devenir viral. Ces heures retrouvées, d'un ennui stupéfiant, sont presque un documentaire animalier sur le monde pré-Internet. Pour qu'il se passe quelque chose, il fallait créer quelque chose, sinon, il n'arrivait rien. Nous ne recevions pas des alertes chaque seconde pour nous avertir du moindre potin et de tout ce qui chie sur la planète en temps réel. Mais est-ce qu'on s'ennuyait? Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Il me semble que non. Lorsqu'on ressentait un peu trop l'ennui, il fallait agir. Appeler un ami, ouvrir un livre, aller au cinéma, dessiner dans un cahier. Nous devions combattre l'ennui à main nue. Parfois, ce qui m'inquiète quand je vois des gens sortir leur téléphone au restaurant ou dans une fête, est qu'ils en soient arrivés à trouver ennuyeux les êtres humains en chair et en os et qu'ils puissent dorénavant les fuir en étant dans la même pièce. Mais ça, les misanthropes l'ont toujours ressenti. Rien de bien nouveau. À moins de subir la solitude ou de souffrir d'une maladie qui nous cloue au lit, l'ennui est une bénédiction qui confirme que notre vie est plus douce que plate. Parlez-en aux parents débordés qui n'ont pas une minute à eux et qui doivent parfois s'ennuyer de s'ennuyer. Il n'y a que les enfants qui n'endurent pas l'ennui. C'est un sentiment qui leur est insupportable, car ils n'ont pas le même rapport au temps. Plus on vieillit, plus on dirait que les heures nous filent entre les doigts, tandis qu'enfant, une heure peut sembler interminable. C'est pourtant de là qu'on invente mille jeux pour se défendre. L'ennui précède l'action et la création. Nul doute que je n'aurais pas développé un tel intérêt pour la lecture si j'avais eu l'Internet plus jeune, car d'une certaine façon, je n'ai jamais vraiment vécu l'ennui en étant entouré de livres. Né dans un autre millénaire, il m'arrive plutôt de m'ennuyer d'un bon livre après une orgie de scrolling sur Instagram. J'ai trouvé très intéressant le reportage de ma collègue Léa Carrier sur ces jeunes qui reviennent au flip phone. Si ça pouvait leur donner envie d'expérimenter l'étrange liberté de se promener sans rien d'autre dans les poches que leurs mains, juste pour savourer la liberté d'être injoignable et à la merci du hasard des rencontres, ce ne serait pas mal non plus. Mais il faut être de son temps, et j'avoue être parfois nostalgique d'un environnement où le monde ne venait pas à moi en vibrant dans ma poche de façon aussi intrusive. S'ennuyer a du bon, ne serait-ce que pour échapper quelques heures à l'économie de l'attention, quand toutes les plateformes, sur le web ou à la télé, rivalisent férocement pour capter et conserver notre intérêt 24 heures sur 24. C'est probablement sur notre peur de l'ennui qu'elles font fortune. Ce faisant, elles ont peut-être tué l'ennui, qui avait quand même quelques qualités, même si j'en doute un peu en regardant de vieux enregistrements d'une autre époque. C'était « L'ennui est une bénédiction », un texte de Chantal Guy paru le 21 mai 2023 dans la presse.
Trois femmes, trois générations, trois avortements. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 5 mars 2023 dans La Presse. L'affaire Chantal Daigle a relancé le débat sur le droit à l'avortement au pays il y a 34 ans. Un sujet encore tabou aujourd'hui, clivant par moments, dont peu de femmes se vantent. Pour ne plus le taire et toujours le défendre, trois femmes se racontent. Nos mères n'ont pas eu le choix. Marie Gray, 59 ans. Nous sommes en 1988, l'année de la décriminalisation de l'avortement. Marie Gray a 25 ans. Elle chante dans un groupe, a une voix du tonnerre et la vie devant elle. À l'époque, l'autrice, que l'on connaît, entre autres, pour ses histoires à faire rougir, n'écrit pas encore. Elle est plutôt rockeuse et pas prête du tout à être maman. On n'était pas prêts. On était des tripeux, pas du tout responsables, encore des enfants. Elle tombe enceinte, bien malgré elle, et en dépit de son moyen de contraception du moment. Parce qu'il n'y a pas un seul moyen de contraception qui soit efficace à 100%, apprend-elle à ses dépens. À preuve, 2 ans plus tard, rebelote. Sauf qu'heureusement pour elle, et contrairement à Chantal Daigle, ça n'a jamais été un enjeu pour ses conjoints. On n'était pas prêts. Je savais que je voulais des enfants un jour, mais pas là, dit Marie Gray. D'ailleurs, dans ma tête, je ne pensais pas à l'aspect légal. Pour moi, ça allait de soi. Elle avait le choix. Sa mère, très présente, lui apporte tout le soutien du monde et lui confirme « C'est ton choix seulement. » Je me souviens que l'affaire Chantal Daigle a été le premier événement porté par une fille de ma génération qui me faisait réaliser l'importance et le courage de ces femmes qui ont mené des combats pour obtenir ce que je tenais pour acquis, poursuit-elle. Ce n'était plus des histoires de ma mère, mais d'une fille de mon âge que je trouvais forte et admirable. Marie Gray se félicite qu'on aborde ici le sujet. C'est tellement important d'en parler. J'ai peur. C'est inquiétant ce qui se passe aux États-Unis, ce retour de la droite religieuse. On a beau dire qu'ici ça n'arrivera pas, il ne faut rien tenir pour acquis. conclut la mère de deux grands enfants, à qui l'on doit aussi un roman jeunesse sur le sujet, Le vertige de Gabriel, chez Guy Saint-Jean. Il est important de décomplexer ce sujet-là. Marie-Ève Milot, 39 ans. Elle avait 23 ans et sa carrière en théâtre commençait à peine. Elle prenait la pilule et est tombée enceinte quand même. « Oui, c'est un choc !» confirme la metteuse en scène et co-directrice artistique du Théâtre de l'Affamée. « Ce qui m'a fascinée, c'est que quand je l'ai dit à mon entourage, automatiquement, c'était lié à une bonne nouvelle. Comme si le « par défaut » n'était pas l'avortement. » Une réaction sous forme de pression, confirme la co-autrice de « Clandestine », une pièce inspirée de l'histoire de l'avortement au Québec, présentée en février 2023 au théâtre d'aujourd'hui. Parlant de clandestinité, « Ma mère a subi un avortement clandestin », enchaîne-t-elle. « Ma mère n'était pas maîtresse de son utérus. Or, dans l'illégalité et la clandestinité, tu t'exposes à tellement de choses. » Quant à elle, Marie-Ève Milot savait très bien qu'elle n'en voulait pas, et son copain de l'époque non plus. Ce n'était désiré ni pour lui ni pour moi. Mais je vais quand même le dire, il n'était pas là, se souvient Marie-Ève Milot. Oui, ça l'a déçue. Elle s'est rendue au Centre des femmes et a vécu son avortement entre femmes de tous âges au parcours diversifié. Et ça déboulonnait plein de mythes, se souvient-elle. Et ce n'est pas lié à un traumatisme. Je suis reconnaissante d'avoir eu accès à ça et de cette manière. Mais l'actualité lui fait peur. Terriblement, insiste-t-elle. Et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. On a tendance à tenir nos droits pour acquis. Mais contrôler le corps des femmes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il est important de décomplexer ce sujet-là. D'autant plus avec ce qui se passe aux États-Unis, de l'exposer pour que d'autres femmes puissent s'identifier, de montrer la liberté de choix parce qu'elle doit être préservée. C'est un droit, une question de dignité et d'intégrité physique. Dans ma tête, c'était illégal partout. Maria Bejarano, 28 ans. La jeune femme, originaire de Colombie, est arrivée au Québec à l'âge de 17 ans. À l'époque, il y a 10 ans, elle ne parle pas un mot de français. Et dans mon pays, l'avortement n'était pas légal. Cela a pris beaucoup de luttes féministes, dit-elle. On n'avait pas beaucoup d'éducation à la sexualité non plus. Elle ne sait pas ce qu'est une relation saine, une relation intime. Je ne sais même pas c'est quoi l'amour. Toujours est-il qu'elle rencontre rapidement un garçon de son âge. Elle ne prend pas de moyens de contraception parce qu'elle ne sait pas trop à qui s'adresser et qu'aucun intervenant ne parle non plus l'espagnol. Et je suis beaucoup trop gênée pour demander à mon père. Quand elle prend conscience de son état, c'est la panique. Ma vie est finie. Énorme, infini soulagement, quand son petit ami d'alors lui révèle qu'elle peut mettre un terme à sa grossesse et que l'avortement ici, c'est légal, sécuritaire et accessible. C'est légal ici? Dans ma tête, c'était illégal partout, se souvient Maria Bejarano. Oui, c'est un soulagement, dit la jeune militante féministe. Moi, je suis pour, depuis que j'ai une conscience des inégalités sociales et de la pauvreté. Ce n'est pas tout le monde qui doit amener un enfant au monde. Son petit ami fait les appels, prend le rendez-vous et l'accompagne à la clinique. Il faisait la traduction pour moi, se souvient-elle. Non, elle ne le dit pas à sa famille. Peut-être qu'il se serait opposé, dit-elle. En Amérique latine, les parents vont toujours faire pression. Mais c'est notre décision. Même pas. C'est ma décision. Quelques années plus tard, plus établie dans la vie et avec un autre petit ami, Maria a finalement fondé une famille. Là, c'est très différent. J'ai une stabilité émotionnelle. Je suis prête, dit-elle. Mais si tu n'as pas les outils sociaux, économiques et émotionnels pour prendre en charge un enfant, tu ne dois pas être maman. Aujourd'hui, elle souhaite à sa fille la liberté de choisir comme elle. Et qu'elle ait confiance en moi si un jour elle tombe enceinte, parce que je suis une maman féministe et je vais toujours la soutenir. À noter que la Colombie a finalement dépénalisé l'avortement en 2022. C'était trois femmes, trois générations, trois avortements, un texte de Sylvia Galipo, paru le 5 mars 2023 dans La Presse.
Acteur de changement. La sociologue qui transforme la police. Un texte de Caroline Touzin, paru le 29 décembre 2022 dans La Presse. Tout le monde ou presque connaît Fadi Daguerre, le nouveau chef de police de Montréal qui a piloté un changement de culture lorsqu'il était à la tête de la police de Longueuil. Mais dans l'ombre de ce chef hors norme se cache une sociologue-anthropologue, Gabriella Coman. Ensemble, ils ont élaboré le projet Immersion, qui a mené au nouveau modèle de police de concertation qualifié de police de l'avenir par le gouvernement du Québec. Lorsque Fadi Daguerre débarque à la police de Longueuil en 2017, il recrute trois employés du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence à Montréal. Parmi eux, Gabriella Coman, qui travaille alors sur un projet avec des familles québécoises et européennes de jeunes partis faire le djihad en Syrie. Au départ, la sociologue ne se voit pas travailler pour la police. « Oublie ça », répond-elle à un premier ami qui lui envoie l'offre d'emploi. « La police, c'est une organisation très hiérarchique. C'est paramilitaire », explique la quadragénaire, « alors que je ne suis pas quelqu'un qui obéit » si je n'y trouve pas un sens. Mais un second ami, qui a connu le chef Daguerre au début des années 2000, lui recommande aussi de postuler. Déjà à l'époque, Fadi Daguerre misait sur l'importance de tisser des liens avec les populations vulnérables. Sa curiosité est piquée. Celle qui a grandi en Roumanie a connu la Securitate, la terrible police politique du communisme. Comme beaucoup d'immigrants, tu restes avec une certaine image des forces de l'ordre. En Roumanie, on ne voulait surtout pas être identifié comme travaillant avec ce genre de force, dit Gabriella Coman. Disons que j'ai toujours été critique de la police, dit l'intellectuel qui possède deux maîtrises sur les questions d'ethnicité et de nationalisme de droite, l'une en sociologie et l'autre en anthropologie. Durant ses études universitaires, elle s'intéresse toujours au même filon, les questions d'identité et de différence, explique celle qui déménage au Québec en 2001 pour faire son doctorat. En d'autres mots, comment on peut mieux vivre ensemble, la majorité et les minorités, avec nos différences, sans écraser l'autre? Elle réalise ensuite un post-doctorat sur les manifestations du printemps érable en 2012. Disons que la police n'a pas été amicale durant cette période, résume-t-elle, ça renforçait mes appréhensions. Sauf qu'elle enseigne ensuite la sociologie à de futurs policiers au Collège Hansik. Et là, elle découvre des jeunes hyper curieux, animés d'un grand désir de comprendre différentes réalités. « J'ai vraiment eu du fun avec eux », décrit-elle. « Je leur donnais 100 pages à lire en une semaine et la semaine suivante, ils les avaient lues. » À son entrevue d'embauche à la police de Longueuil, la sociologue précise qu'elle tient à sa liberté de critiquer. Dès sa première réunion avec Fadi Daguerre, elle ne se gêne pas quand le chef lui résume ses réalisations pour se rapprocher des communautés, dont la formation de comités, jeunes, noirs, arabes, asiatiques, etc., que la police consultait au besoin. « Moi, je ne ferai pas ça », lui lance-t-elle après sa présentation. Aux yeux de la sociologue, ce type de comité contribue à la stigmatisation, à la mise en silo des communautés. Si tu parles seulement aux porte-parole, tu perds toutes les nuances qui existent dans ces communautés, poursuit-elle. Mon commentaire l'a surpris. Mais il était ouvert à essayer autre chose, se souvient la sociologue. Avec ses deux autres collègues civils nouvellement embauchés, Mme Coman entreprend une grande tournée des groupes communautaires pour connaître leurs perceptions et leurs attentes envers la police. Vous écoutez « Acteurs de changement, la sociologue qui transforme la police », un texte de Caroline Touzin paru le 29 décembre 2022 dans la presse. Au refuge pour sans-abri, l'abri de la Rive-Sud, on lui raconte une histoire qui la renverse. Deux patrouilleurs, à la recherche d'un homme en crise, sont entrés de force dans le bureau d'un intervenant. Ce dernier leur avait interdit l'entrée, car il détenait des renseignements confidentiels qu'il n'était pas autorisé à communiquer à la police. L'intervention a dégénéré. L'employé a eu le bras cassé. Les gens de l'organisme en itinérance lui ont raconté l'événement comme s'il avait eu lieu la veille. Or, cela s'était déroulé 5 ans plus tôt. « Je voyais la profondeur de la blessure », décrit la sociologue. Dans certains groupes communautaires où la méfiance envers la police est grande, Mme Coman et ses deux collègues répètent « On comprend vos critiques. On va amener ces points de vue à l'interne et travailler pour que ça change. » Le mot se passe dans toute l'agglomération. 3 civils un peu particuliers ont intégré le corps policier. Je représentais la police sans mettre en évidence la culture policière, résume Mme Coman. Ça a été essentiel pour créer les liens avec les partenaires. C'est ici que ses études en anthropologie influencent la suite des choses. En Roumanie, elle avait déjà fait des stages immersifs de 2 à 3 semaines, notamment dans des villages. Les étudiants étaient en binôme. Chaque jour, ils faisaient un retour sur ce qu'ils avaient vécu. Et si les policiers faisaient la même chose chez les populations vulnérables? Je ne pensais jamais qu'on pourrait le faire. C'est énorme d'un point de vue financier, organisationnel et aussi d'un point de vue émotionnel. Le chef Daguerre a proposé une durée de 5 semaines. Même au baccalauréat en anthropologie, je n'avais pas fait de stage aussi long, lâche-t-elle. Ainsi, 30 policiers en civil et sans armes ont vécu différentes expériences, souvent déstabilisantes, dans la communauté pour la première fois à l'automne 2019. Le programme de développement professionnel baptisé « Immersion » a été répété 2 autres fois depuis. Refuge pour sans-abri, maisons de jeunes, familles de réfugiés ou encore d'enfants autistes, organismes de santé mentale, mosquées, autant d'immersions dans des milieux que les agents connaissaient peu ou mal. La presse avait d'ailleurs raconté cette première expérience dans une série de reportages. Des policiers ont témoigné devant leurs collègues que l'expérience les avait transformés. Une policière nous a dit que pour elle, il y avait un avant et un après immersion, décrit la sociologue. Ça a changé sa vie, sa façon d'interagir dans des situations limites. Maintenant, elle sait comment les autres peuvent se sentir quand la police intervient. Le stage en a réconcilié plusieurs avec leur métier. Cela a redonné du sens à leur travail au quotidien. Je suis entré dans la police pour aider le monde, et avec le temps, j'avais oublié pourquoi je faisais cela, a témoigné l'un d'eux. Ce même agent est d'ailleurs devenu un policier réseau, la continuité du stage immersion. Les policiers réseau sont accessibles, circulant à pied et se concentrant sur la prévention dans des zones vulnérables. L'idée étant que les policiers travaillent avec les partenaires du milieu pour mieux intervenir avant la crise, avant l'appel au 911. Et pour cela, il faut qu'ils apprennent à se connaître et à se faire confiance. Sans un chef extrêmement ouvert au profil atypique, on n'y serait pas arrivé, insiste Mme Coman, humble quant à son apport au changement de culture. Je suis là pour soulever des points dissonants dans cette culture policière et comment on peut l'amener à travailler différemment. Québec et plusieurs maires influents vantent désormais ce modèle de police de concertation. Tu ne peux pas avoir une institution avec un rôle aussi important dans la société qui reste ancrée dans des réalités du passé, croit la sociologue. On n'est plus dans une société directive, il faut être à l'écoute de l'autre, se mettre à égalité avec les partenaires. C'était « Acteurs de changement, la sociologue qui transforme la police », un texte de Caroline Touzin paru le 29 décembre 2022 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à André Lebeau, Claire Dorion et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.